Chapitre 1er. Description de la main normale. Nous allons autant que possible multiplier les figures explicatives. C'est encore le meilleur moyen pour initier le lecteur à ses études. Nous décrirons les lignes l'une après l'autre, avec beaucoup de détails, sans cependant nous perdre dans l'infiniment petit où la netteté finit par faire défaut. Voyons d'abord l'ensemble de la main. La main se divise en quatre parties bien distinctes. La partie haute, la partie basse, la partie inférieure, la partie supérieure. La partie haute comprend l'extrémité des doigts au-dessus de la ligne AB. La partie basse est le poignet, le passage de la main au bras, la rasquette, au-dessous de la ligne EF. La partie supérieure est la portion de la main située en face du pouce entre les lignes AB et CD. Enfin, la partie inférieure s'étend au-dessous de celle-ci et au-dessus de la rasquette, soit entre les lignes CD et EF. La main de l'homme est en quelque sorte un diminutif du corps entier. Chacune des parties essentielles du corps, chaque principal organe, envoie à un endroit précis de la main le sang et la vie, et avec la vie, certaines tendances, certaines vertus secrètes, qui font que cette partie du corps et cette portion de la main sont à jamais unies par des liens secrets d'amitié indéracinables. Si bien que les modifications qui surgissent dans la forme et les plis de la main avertissent d'un trouble ou d'un simple changement imminent de l'organisme entier. Voilà pour les événements physiques. Mais les événements moraux et divins ne sont pas moins bien dénoncés par les mouvements des lignes. Chaque partie de la main correspond en effet à un coin du cerveau et, à la fois, est sous l'influence d'un astre. Dans les choses terrestres, comme dans les choses célestes, tout est lié. Rien ne se fait sans préalable avertissement. Aux hommes à étudier leur propre disposition à ces événements et accidents pour les mieux accueillir ou les éloigner avec plus de fermeté. Réponse aux incrédules. Si des personnes incrédules vous disent, en souriant malignement, que les lignes de la main dépendent tout bonnement des occupations habituelles, du métier, prenez la main d'un nouveau-né et montrez à vos interlocuteurs des lignes très nettes et très variées que peut-être ils voudront bien accepter comme ne venant pas d'une profession. Et ainsi sera détruite la grosse objection qu'on oppose à la légitimité de cette belle science. Les doigts et les jointures. Les doigts commencent dès la première jointure, voire figure 3. Nous n'en dirons que quelques mots. Leurs noms sont d'ailleurs bien connus. Le pouce, ou pollex, l'index, ou doigt indicateur, le médius, ou médium, doigt du milieu, l'annulaire, le doigt qui porte les bagues, le petit doigt, ou auriculaire. Le pouce a 2 jointures, chacun des autres doigts en a 3, ce qui fait 14 au total. La première jointure est celle qui se trouve à la racine même du doigt. La rasquette, ou ensemble des lignes du poignet, peut être considérée comme la 15e jointure. La paume de la main. Ce qui frappe ensuite dans l'examen de la main normale, ce sont les diverses proéminences, ou mieux, les monts. Ils sont au nombre de 6, 4 à la base des doigts, en voici les noms. À la base de l'index, le mont de Jupiter. À la base du médius, le mont de Saturne. À la base de l'annulaire, le mont du Soleil. À la base de l'auriculaire, le mont de Mercure. 1 à la base du pouce, le mont de Vénus. Le dernier, le mont de la Lune, se trouve à la partie de la paume opposée au pouce. Au centre de tous ces monts s'étend la plaine de Mars. Voici les signes dont on a l'habitude de se servir pour désigner les monts de cette plaine. Nous mettons en regard le caractère principal de chacun d'eux. Jupiter, commandement, autorité. Saturne, fatalité, destin. Soleil, renommée, gloire. Mercure, adresse, astuce. Vénus, amour, intelligence, volonté. Lune, imagination, contemplation. Mars, courage, violence. Nous arrivons aux lignes. Les 4 principales, celles qui frappent tout d'abord, sont la ligne de vie, la ligne de tête, la ligne de Saturne, entre parenthèses fatalité, la ligne du cœur. Nous consacrerons un chapitre à chacune d'elles en raison de leur importance capitale. Les autres lignes sont bien moins nettes, plus courtes. Elles forment souvent des sortes de hachures, des cercles, des étoiles, des carrés. On peut non seulement les examiner au point de vue de la forme, mais aussi au point de vue de leur situation entre elles. Elles peuvent être horizontales, verticales, obliques, arrondies, etc., etc. Voici les noms des principales lignes secondaires. La voie lactée, les lignes sœurs, la ligne de santé, l'anneau de Vénus, la rasquette ou ensemble des lignes du poignet. Les lignes qu'on ne retrouve pas dans toutes les mains et qui, par ce fait, annoncent un caractère particulier chez la personne qui les possède, s'appellent lignes accidentelles. En des chapitres à part, nous étudierons chacune à leur tour ces lignes, non moins curieuses que les lignes principales. Nous ouvrirons un paragraphe spécial pour chaque subdivision et nous décrirons les diverses phases d'ensemble de chacune des parties de la main. Il n'est pas superflu de rappeler au lecteur que la plus grande attention est nécessaire et qu'il ne lui faut pas se laisser rebuter au premier abord, mais bien au contraire nous suivre pas à pas, mot à mot, s'il veut se bien pénétrer de cette belle science et en posséder tous les secrets. Choix de la main à étudier. La base de l'étude doit reposer sur la main gauche. Il y a plusieurs raisons qui poussent à ce choix. D'abord, la main gauche, un peu paresseuse, est la plus nette, la moins fatiguée, la moins abîmée. Les anciens la préféraient parce qu'elle était dédiée à Jupiter et aussi parce qu'elle était la main du cœur. Toutefois, il ne faut pas négliger complètement la main droite. Un détail peu net dans la main gauche se précise quelquefois dans la main droite. Il arrive même que certaines lignes n'existent que dans cette dernière main. Pour lire dans la main, il faut la placer de cette façon. Le plus à plat possible sur la table, la main tournée vers le ciel. À de certains moments, suivant les indications du chiromancien, fermez à demi la main, formez cuvette avec la paume, de façon à accentuer les plis. Puis, tendre brusquement la main, l'ouvrir le plus possible, de telle sorte que les lignes restent un instant colorées de sang. La lecture sera ainsi facilitée et les monts très visibles. L'aspect général de la main se rapproche beaucoup d'une carte géographique où seraient marquées seulement les montagnes et les vallées. Il s'agit maintenant de faire la géographie politique, pour ainsi dire, de cette contrée fabuleuse. Chaque petit coin de territoire a ici son histoire et ses légendes, son passé et aussi son avenir. Et de cette histoire, nous pourrons tirer une morale et une philosophie. Une morale, c'est-à-dire des principes de vie, une ligne de conduite. Une philosophie, c'est-à-dire un agrandissement des principes jusqu'à la sagesse imperturbable des forts, des grands, presque des dieux.